RCF.
Alors nous sommes toujours dans ce temps pascal après avoir vécu les fêtes de Pâques. Et il est important de s'arrêter sur ce qu'est la résurrection et nous le faisons avec le père Christophe Dansette. Bonjour.
Bonjour Madeleine.
Vous êtes prêtre du diocèse de Lille et vous nous aidez à mieux comprendre ce qu'est la résurrection. Alors on a évoqué la divinité du Christ, on a évoqué comment dans nos vies il agissait. Et il est important aussi de comprendre ce que le Christ a changé à la mort. Si on revient à ce qu'était la vie après la mort, quand le Christ n'était pas encore là, quand on était dans le monde juif, que voulait dire la mort? Quel était cet endroit? Quelle était cette vie après la mort? Si on peut parler de vie d'ailleurs, parce que qu'est-ce que le Christ est venu changer de notre mort?
On peut dire que le Christ a tué la mort. Il a vraiment, en tout cas, révolutionné le concept. Dans l'Ancien Testament, pendant l'essentiel de l'Ancien Testament, il n'y a pas véritablement d'espérance de vie après la mort. Le concept hébreu était celui du Sheol, donc un lieu au fond de stockage, si on peut dire, des âmes défuntes. C'est plutôt un lieu d'oubli, c'est un lieu où les défunts ne peuvent pas tellement agir. C'est pas un lieu de punition. Attention, on va parler en français, on dira dans ces cas-là, si on parle du Sheol, on dira les enfers, par opposition à l'enfer. Les enfers, le Sheol, n'est pas un lieu de punition. Mais ça veut dire simplement qu'une fois qu'on est mort, ben, au fond, on est un petit peu hors jeu. L'espérance de la résurrection va apparaître tout doucement. Les premiers témoignages qu'on a dans l'écriture, ça va être à l'époque hellénistique, c'est-à-dire en gros vers moins 160 avant Jésus-Christ, au moment de la révolte des Maccabées. Il y a comme ça tout un passage assez célèbre du livre des Maccabées où des hommes sont morts à la guerre. Et Judas Maccabée découvre qu'il y a sur ces hommes, dans leurs vêtements, des idoles, des médailles, des choses comme ça. Et donc, il se dit que ces hommes sont morts à la guerre à cause du péché qu'ils avaient commis en portant toutes ces médailles sur eux. Et la proposition va donc être de prier pour eux en espérant qu'ils puissent être sauvés de la mort éternelle. Donc, on voit apparaître l'idée d'une résurrection. Et cette idée va devenir de plus en plus populaire. On le voit dans les évangiles, lorsque vous avez des débats entre Jésus et les Sadducéens. Les Sadducéens, l'évangile nous dit bien qu'ils ne croient pas qu'il y a résurrection des morts, et ils se moquent d'ailleurs de Jésus à ce sujet. Donc, vous êtes là face à une idée nouvelle, qui progressivement prend de la force, et que Jésus va vraiment développer. Donc, à partir du Christ, on entre dans l'espérance de la résurrection, non plus là seulement la résurrection du Christ, mais la résurrection des morts en général. Et cette conviction va habiter le cœur des chrétiens de façon très forte. Ça se traduit en particulier à Rome par l'abandon de la crémation pour désormais enterrer les morts dans des catacombes. Et cet enterrement est un signe que les chrétiens donnent de leur espérance en la résurrection, dans le relèvement des morts. Ils ne sont pas idiots, hein. Ils savent bien que même si le corps a disparu, la personne pourra ressusciter. On n'est pas dans une vision complètement matérialiste des choses. On l'a vu, hein, les empereurs romains ont eu la tentation de temps en temps de faire disparaître les corps en pensant que ça suffirait à désespérer les chrétiens qui espéraient en la résurrection. Or, ça ne les a pas désespérés. Le fait d'enterrer les morts était un signe qu'on donnait de notre espérance, mais ce n'était pas l'espérance elle-même. Donc, effectivement, d'un seul coup, avec le Christ, cette espérance de la résurrection qui a commencé à apparaître dans le peuple juif à partir des derniers siècles avant le Christ, elle prend une force nouvelle, et désormais, on espère véritablement en une vie éternelle. C'est-à-dire, d'abord, un jugement particulier au moment du décès.
Et c'est-à-dire ?
C'est-à-dire, c'est l'idée d'un jugement dans lequel on détermine en fonction de la vie qui a été la vôtre si vous ressuscitez pour la vie éternelle ou si vous ressuscitez pour la mort éternelle, pour le ciel ou pour l'enfer. Et la foi tient aussi un jugement général à la fin des temps, les deux dimensions étant à articuler. On entend bien qu'on parle de l'éternité, donc de dire à la fin des temps pour quelque chose qui est dans l'éternité, on ne sait pas très très bien ce que ça veut dire, mais on tient en tout cas deux choses, à la fois un jugement particulier de la personne en fonction de la vie qu'elle a menée, et à la fois un jugement général où là toute l'humanité est concernée, et au-delà de toute l'humanité, c'est toute la création.
Cette transformation de la mort que le Christ vient nous dire, dans quelle mesure est-ce que pour nous ça peut nous permettre de ne plus avoir peur de la mort ? Est-ce que c'est aussi cela qui est transformé avec la résurrection du Christ ?
Moi je suis toujours très touché par l'épisode où le Christ est sur la croix et puis vous avez cet échange incroyable avec le bon larron. Et le Christ qui lui dit, je te le dis, ce soir tu seras avec moi dans mon paradis. Donc désormais, le regard qu'on va jeter sur la mort change du tout au tout. Désormais, nous ne mourrons plus seuls. Vous avez le mot assez célèbre hein, de Claudel qui dit que le Christ n'est pas venu supprimer la souffrance, ni même l'expliquer, mais la remplir de sa présence. Et je pense qu'on peut dire exactement la même chose de la mort. Le Christ ne vient pas supprimer la mort physique, par contre il vient la remplir de sa présence. Et on peut partir en ayant au cœur la certitude qu'on ne meurt pas seul et qu'on va rejoindre quelqu'un qui nous aime. J'ai été moi très touché par le décès d'une de mes grand-tantes récemment et lors de ses funérailles, mon grand-oncle m'avait transmis un petit message en me disant quelques jours avant sa mort, ta tante avait eu un rêve. Et dans ce rêve, elle voyait une femme très belle, très douce, qui lui disait qu'elle était attendue, et qu'elle attendait son arrivée, qu'elle attendait sa venue. Alors, évidemment, ils ont prié ensuite, quand ma grand-tante a raconté à son mari son rêve, et ils ont prié un chapelet et la Vierge Marie. Je crois que dans notre foi, il y a ça. Nous sommes attendus, et le Seigneur nous espère. Donc, ça doit nous amener à changer quand même assez radicalement notre regard sur la mort.
Après passer cette période de deuil qui est indispensable, finalement, c'est plutôt une joie qui doit nous occuper.
Il restera toujours la séparation physique, qui est une souffrance. Et ça, il ne s'agirait pas de la nier. Mais je crois qu'on peut, et qu'on doit même, en tant que chrétien, essayer d'entrer dans cette joie de savoir les personnes vivantes. Nous devons nous habituer à les penser plus vivantes en Dieu qu'elles ne l'ont été quand elles étaient à nos côtés. La vie éternelle ne saurait être une vie au rabais. Parfois, on fait du ciel comme une espèce de version un peu palote de l'existence. Or, ça n'est pas ça. Nous croyons, nous, que la vie éternelle est vie véritable. Donc, il faut accepter de vivre de cette joie. Je crois que ça paraît un peu curieux. Aujourd'hui, on voudrait absolument qu'il soit de bon ton de pleurer et de se lamenter, eh bien, un chrétien, il doit accepter que son espérance va jusque-là. Oui, ceux qui sont défunts sont vivants. C'est le paradoxe de la résurrection, hein. Ceux qui sont morts sont vivants. Et ils sont vivants d'une manière tout à fait unique, tout à fait particulière. Rien de ce qu'ils n'ont vécu sur la terre n'est perdu. Au contraire, ce qui a été vécu sur la terre prend sa véritable dimension. Vous avez cette image très belle, toujours dans la première aux Corinthiens, quand on interroge Paul sur la résurrection de la chair, sur la résurrection des morts, il prend l'image de la graine et de la plante. Et il dit, mais en gros, hein, il nous dit, il y a à peu près autant de différence entre notre vie terrestre et notre vie dans le Christ, et notre vie glorifiée, qu'entre la graine et la plante qui a poussé. Alors prenez une petite graine, et puis ensuite regardez la belle fleur que ça produit. Eh bien, regardez votre existence terrestre et regardez ce que sera votre existence en Dieu. Il y a la même différence. Donc si on se lamente et qu'on se désespère parce qu'une personne est décédée, encore une fois, on a le droit d'être touché, on a le droit d'être blessé, mais il faut faire le pas d'aller jusqu'à l'espérance et croire que la personne aujourd'hui vivante est d'une vie infiniment plus grande que celle qu'on a pu connaître avec elle.
Donc vous diriez qu'elle est ressuscitée ?
Alors, on va dire d'une personne qu'elle est ressuscitée, nous croyons-nous à la résurrection au dernier jour.
Alors, c'est ce que nous verrons dans la prochaine émission. Une dernière question avant de terminer. On peut reprendre les mots de saint Paul au chapitre 15 dans la première lettre aux Corinthiens. Saint Paul dit « Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?»
Là, vous touchez un point qui est très intéressant, Madeleine, parce que ce qui frappe les historiens, ce qui frappe les chercheurs quand on regarde l'émergence de la foi chrétienne, c'est qu'on soit passé de l'espérance de la résurrection du Christ à l'espérance de la résurrection générale des morts. Ce qui n'était quand même pas gagné d'avance. Que le Christ, un être exceptionnel, le Fils de Dieu, ressuscite, c'est une chose. Que l'ensemble des hommes et des femmes ressuscite, c'en est quand même une autre. Et le lien entre les deux, entre la résurrection du Christ et l'espérance d'une résurrection pour tous, ce lien-là reste au fond profondément mystérieux, et tous ceux qui voudraient vous expliquer la naissance de la foi chrétienne par une espèce d'hallucination dans laquelle des gens auraient vu, parce que très poussés par un grand désir, ils auraient vu apparaître le Christ, même ces gens-là sont incapables d'expliquer comment est apparue cette foi en une résurrection générale des morts. Il y a quelque chose où la résurrection du Christ, c'est tellement grand, c'est tellement la victoire d'un Dieu bon, que désormais, il n'y a plus de limite à la foi qu'on met en ce Dieu. Et donc même la résurrection générale des morts devient possible et pensable.
Merci Père Christophe Dansel, je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Lille.